Capital sur Radio Grand Ciel. Au micro,
Elisabeth Couget
et Christine Fauta. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous visitons la capitale d'un pays où de riches vestiges des cités des civilisations disparues, des villes coloniales espagnoles et des traditions indiennes se disputent la vedette.
Il s'agit d'un pays de l'Amérique centrale.
Exactement. Nous partons à Mexico, la capitale de Mexique, où avant 1492 se trouvait Tenochtitlan, capitale des Aztèques. La ville se situait sur une île, au milieu du lac Texcoco. Les soldats de Hernán Cortés, après la conquête, rasèrent Tenochtitlan et utilisèrent les pierres pour leur construction. Et avec le reste, comblèrent une bonne partie du lac Texcoco.
Aujourd'hui, le centre historique de Mexico occupe l'ancienne cité aztèque.
Exactement, et qui date surtout de la période coloniale, mais dans une vraie mosaïque de style où l'on trouve des églises, des palais coloniaux, tout comme des bâtiments art nouveau, art déco, des gratte-ciel des années 50, et le tout près du grand temple aztèque qui était mis à jour vers 1980.
Donc il n'y a pas tellement longtemps. Et quel est le meilleur moyen pour découvrir Mexico?
Eh bien, le mieux, c'est peut-être d'aller à pied.
Ou bien de prendre le métro.
Exactement. D'autant plus que les principales stations de métro se trouvent sur les grandes places de Mexico. D'une part, le Zócalo et la Alameda. Alors, il faut savoir que se promener à pied à Mexico n'est pas toujours sans danger. Il y a des quartiers, comme près de l'Alameda, par exemple, qui ne sont absolument pas sûrs.
Je crois que le Zócalo est l'endroit le plus célèbre de Mexico.
Alors, autrement dit, la place de la Constitution, où se déroulent toutes les cérémonies officielles et aussi des parades militaires.
Car on dit du Zócalo que c'est l'une des plus grandes places du monde.
Exactement. Alors, la cathédrale métropolitana qui est là en occupe un grand important. Et quoique endommagée par des affaissements de terrain, elle demeure cependant l'un des plus grands édifices religieux de l'Amérique latine.
Et il y a d'autres bâtiments sur cette place qu'on appelle aussi la place des trois cultures, je crois d'ailleurs.
Exactement.
Et ils méritent d'être cités, ces bâtiments. Mais en premier, entrons dans la cathédrale dont les tours surplombent le Zócalo.
Alors, sa construction a duré presque 250 ans, tout au long de la colonisation d'ailleurs, entrecoupée de longues périodes d'arrêt. Et c'est la longue durée de la construction et le très grand nombre d'architectes, peintres et sculpteurs qui y ont travaillé qui explique la diversité des styles, surtout espagnols, mais avec des éléments mexicains.
Est-ce que c'est la première cathédrale de Mexico?
Non, la première cathédrale dont la construction a débuté dès 1925 se trouvait au sud du Zócalo. On y trouve encore quelques colonnes, mais devenue très rapidement trop petite, on l'a abandonnée et on a débuté la construction de la cathédrale métropolitana 40 ans plus tard.
Et c'est un édifice magnifique à l'architecture baroque.
Oui, car la plus grande partie de la cathédrale fut achevée au milieu du XVIIe siècle. Alors, comme on le sait, le baroque, c'est surtout là qu'apparaissait. Mais la sacristie, il faut dire qu'elle est construite en style plateresque.
Alors, peut-être une explication sur ce style. Pourquoi l'appelle-t-on plateresque?
Alors, c'est à cause de la manière dont les sculpteurs travaillaient la pierre aussi finement que les orfèvres sculptaient l'argent. Et comme en espagnol, l'argent se dit plata, d'où le nom style plateresque.
Plateresque. Et quand on parle alors d'un autre style, le style churrigueresque.
Bravo, bien prononcé. C'est le baroque espagnol tardif. C'est un style ornemental et son nom vient d'un nom de famille d'architectes qui ont beaucoup travaillé à Mexico, les Churriguera. Ce style est caractérisé par les colonnes carrées supportant des motifs élaborés. On les trouve dans le chœur, dans les chapelles et sur le magnifique altar de los Reyes
altar,
de la cathédrale.
Donc, l'hôtel des rois.
Exactement.
Et quels étaient les constructeurs de cette cathédrale?
Alors, c'était surtout des Espagnols, sauf José Damián Ortiz de Castro, qui est né à Mexique et qui ajouta les deux tours et les balustrades de la façade vers 1780. Mais c'est encore un Espagnol qui apporterait la touche finale à la construction en 1813.
Et tu nous as parlé, Elisabeth, de l'affaissement de l'édifice.
Oui, effectivement, et cela est dû à son énorme poids. Alors la cathédrale s'affaisse dans le sous-sol tendre du fond du fameux lac Texcoco, qui a été donc remblayé, et cela a commencé dès le début de sa construction. Lors du séisme de 1985, la situation s'est considérablement aggravée, mais grâce au plan de sauvetage, la structure s'est stabilisée, empêchant l'effondrement de la cathédrale. Et cet édifice, qui est vraiment vaste, qui renferme 5 autels principaux, 16 chapelles latérales et abrite de précieuses collections de peintures, de sculptures et de mobilier d'église.
Quelle richesse,
ouais. Superbe.
Et alors, de tous les autres bâtiments du Zocalo, le plus important, je crois, est de loin le Palais National.
Exactement, qui occupe tout le côté est de cette place, de style Renaissance. Il se trouve exactement à l'emplacement de l'ancien palais de l'empereur aztèque Moctezuma, où il a accueilli Cortés, le conquistador. Cortés, qui après l'avoir exécuté et avoir détruit le palais, il construira cet édifice que nous connaissons aujourd'hui et qui servira de résidence au vice-roi d'Espagne. Et au cours des siècles, ce palais sera le théâtre de nombreux événements politiques, des révolutions. Et aujourd'hui, tous ces épisodes survenus ici et à travers l'immense pays qu'est Mexique se retrouvent au-dessus de l'escalier principal, comme sur les plages d'un livre d'images en couleur.
Voilà, donc c'est l'immense fresque de Diego Rivera.
Exactement, très très connue de par le monde et qui présente un panorama de l'histoire mexicaine, donnant une vision idéalisée des indigènes d'avant la conquête sanglante des Espagnols. Et on y trouve aussi le défenseur des Indiens, Bartolomé de las Casas, et des différents héros mexicains comme Zapata par exemple.
Et je suppose que les touristes y vont surtout pour admirer ces fresques, tout en découvrant bien sûr l'histoire du Mexique.
Alors je le pense aussi que c'est surtout le but. Et maintenant que nous avons vu ces magnifiques fresques, allons visiter le fameux collège San Ildefonso. Alors c'est un ancien séminaire jésuite et qui est un remarquable exemple de l'architecture mexicaine de l'époque coloniale. Aujourd'hui, faisant partie de l'université, le collège est devenu un musée. Des peintres exerçant le style dit mural, comme Diego Rivera ou Frida Kahlo, y ont peint des murs du patio et d'autres parties du collège.
Après ce magnifique bâtiment du XVIe siècle, découvrons le grand temple aztèque avant de quitter le Zocalo.
Alors les Aztèques ont bâti leur plus important édifice religieux sur ce lieu, 200 ans avant l'arrivée des Espagnols, en 1325, à l'endroit même où leur prophétie s'était réalisée.
Et quelle était donc cette prophétie ?
Alors, il s'agissait de l'apparition d'un aigle perché sur un cactus en train de dévorer un serpent. Alors, on a découvert, les Espagnols ont découvert ce temple et ils l'ont détruit comme à peu près tout. Et en 1978, par hasard, à sa place, on a découvert une statue très jolie et qui a provoqué un programme intense de fouilles. Alors aujourd'hui, en le visitant, nous avons une image quasi réelle de ce qu'était le Templo Mayor des Aztèques avant l'arrivée destructrice des conquistadors.
Et c'est sur cette évocation sombre que nous quittons le fameux Zocalo. Et avant de continuer notre promenade à Mexico, nous vous proposons quelques notes musicales.
Oui, qui n'est pas triste du tout. Nous venons de découvrir le Zócalo, la plus grande place de Mexico, cette mégapole chaotique et surpeuplée qui est très très souvent couverte d'un nuage de pollution, hélas.
Et juste un mot pour dire que malgré les moments très sombres de l'histoire du Mexique, la musique est extrêmement joyeuse.
Absolument.
Alors, allons-nous promener quelque part dans un parc, comme par exemple à Chapultepec, en passant par la Reforma.
Oui. Dans les années 1860, on a aménagé, sous le bref règne de l'empereur Maximilien, une belle avenue entre Mexico et le bois de Chapultepec. Cet élégant et vaste boulevard planté d'arbres est le paseo, autrement dit la promenade, de la réforme, comme disait. Alors aujourd'hui, il ne ressemble plus à la belle promenade de l'époque de Maximilien d'Autriche. Les beaux manoirs du tournant du siècle ont été remplacés par de très grands immeubles. Mais les belles fontaines et les statues sont toujours là, tout comme l'ange doré de l'indépendance, l'emblème de Mexico. Alors le Paseo de la Reforma est long de 3,5 km et tout au long, de beaux monuments s'y dressent.
Et donc la promenade se poursuit jusqu'au Bosque de Chapultepec, bois de Chapultepec. Et quelles sont les plus célèbres statues et monuments que l'on peut y admirer?
Alors par exemple, la Diane Chasseres, le monument de la Révolution, le monument dédié à la mère de famille, celui du dernier empereur aztèque à Cuauhtémoc, ou bien la statue del Caballito, le petit cheval. C'est un autre symbole de la ville de Mexico. Sans oublier la statue de Christophe Colomb, comme partout en Amérique
bien sûr.
Du Sud.
Et puis au-delà de ces statues, de nombreux musées s'imposent, comme par exemple le Musée national de San Carlos.
Oui, c'est un super bâtiment néoclassique du début du 19e siècle, qui abrite la plus grande collection d'art européen du Mexique.
Et il y a aussi le fameux musée de cire.
Oui, c'est dans une étonnante demeure Art Nouveau. Ce musée de cire nous offre un passionnant voyage à travers l'histoire et la culture mexicaine. Par exemple, tous les présidents élus depuis 1920 sont réunis dans une même salle. Et on y trouve aussi ailleurs, dans une autre salle, par exemple, des personnalités de l'art comme Placido Domingo.
Et ce qui est drôle, c'est que c'est toujours depuis 1920 le règne du parti révolutionnaire institutionnel, même si les deux termes ne vont pas du tout ensemble.
C'est un autre sujet à aborder.
Et le musée de l'art moderne?
Alors on trouve dans ce musée de nombreuses œuvres des artistes mexicains, dont toujours Diego Rivera, et peut-être le plus célèbre par le monde, sans oublier la merveilleuse Frida Kahlo.
Et après tout ça, nous voilà enfin à Chapultepec, le lieu de détente favori des habitants de Mexico tous les week-ends.
Alors Chapultepec est un parc qui a été ouvert au public dès le XVIe siècle. Ses sentiers ombragés sont bordés de camelots vendant des casse-croûtes mexicains, des barbes à papa ou des ballons. On y trouve un zoo, un lac avec des barques, des galeries, un jardin botanique, des spectacles en plein air et plusieurs musées s'y trouvent aussi. Pour profiter d'une spectaculaire vue sur la capitale, je vous conseille de monter à la terrasse du château
qui domine. Et ce château, c'était le palais impérial de Maximilien et de son épouse Charlotte de Belgique.
Alors exactement, il se situe sur ce point culminant de l'unique colline du Bosque de Chapultepec. Ce château, après Maximilien, est devenu la résidence officielle des présidents de la République de Mexique. Et aujourd'hui, c'est le Musée national d'histoire.
Et c'est un beau musée, mais j'ai une préférence pour l'extraordinaire musée de l'anthropologie, qui est vraiment un des grands centres d'intérêt du Mexique.
Je crois que c'est inévitable. Et ce musée se trouve donc au côté opposé du château, du parc. Il renferme une collection mondialement célèbre d'objets anciens. Cet endroit mérite largement une visite de plusieurs heures. Il fut inauguré en 1964. Sa grande cour centrale est déjà une sensationnelle réussite technique et artistique, puisqu'un dé de 84 mètres de long, soutenu par un unique pilier de 11 mètres, forme la plus grande sculpture au monde réalisée en béton et soutenue en un seul point.
Et je suggère vraiment de suivre un guide pour visiter ce musée tellement riche qui vous accompagnera tout au long des nombreuses salles.
Alors effectivement, il vaut mieux, pour ne pas se perdre au milieu d'une profusion de statues, de masques, de poteries datant de la période préclassique ou de l'époque de Teotihuacan, l'ère des Toltecs, des Mayas et la fabuleuse salle des Aztèques qu'il faut absolument visiter.
Oui, qui est la plus vaste du musée de l'anthropologie.
Oui, et dans cette fabuleuse salle, entre autres choses, vous pourriez admirer d'étonnantes et l'étonnante pierre du soleil, que l'on appelle quelquefois, mais à tort, la pierre du calendrier, qui était mise à jour en 1790 sur le Socalo. Ce disque de basalte décrit le début du monde aztèque et prédit sa fin.
Il s'agit d'un disque de 3,6 mètres de diamètre qui pèse 24 tonnes avec en son centre la figure de Dieu.
Alors qui pourrait être le dieu solaire? Mais dans cette salle et dans le musée, il y a beaucoup d'autres objets uniques au monde, comme le bouclier aztèque fait de peau et de plumes, ou la maquette de l'ancienne capitale aztèque qui nous la montre telle que Hernán Cortés et ses conquistadors ont dû la voir à leur arrivée dans le Nouveau Monde.
Maintenant, je crois qu'après ce bol d'air dans le parc de Chapultepec et la longue promenade dans ce que l'on pourrait appeler le poumon vert de Mexico, nous pourrions retourner en ville.
Mais seulement après une nouvelle petite pause musicale. Alors nous revoici dans les rues de Mexico, dans cette troisième partie de notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. Mexico est une ville gigantesque que nous ne pourrions pas vous montrer sous tous les aspects, ça serait tout à fait impossible.
Oui, enfin on en a déjà vu un bon aperçu, mais nous allons continuer à vous indiquer les endroits les plus intéressants.
Alors allons déjà voir deux quartiers typiques qui rappellent la conquête espagnole. Commençons par San Angel et promenons-nous en direction de Coyoacán.
Et pourquoi ces quartiers sont-ils particulièrement intéressants?
Eh bien, parce qu'ils ont gardé leur architecture coloniale. Et ces quartiers étaient les communautés rurales à l'origine, mais à l'avancée de la métropole, ils ont été engloutis Et voilà, c'est un endroit qui plaît beaucoup. Ils sont très prisés par les habitants de Mexico et aussi par les artistes.
Et d'où viennent leurs noms, comme par exemple Coyoacán?
Alors, Coyoacán, avant la conquête, était un lieu rempli de coyotes.
Ah, d'accord. Coyo.
C'est ça, une chaussée le reliait à la capitale des Aztèques, à Tenochtitlan, et Cortés s'y est installé, tout comme d'autres militaires, en attendant la construction de la nouvelle capitale à la place de Tenochtitlan, que son armée a détruite consciencieusement.
Et San Angel?
Alors, ce n'était qu'un village que les Indiens nommaient Tenanitla au moment de l'arrivée des Espagnols. Les moines dominicains et les carmélites s'y sont établis. Et on peut dire que peu de quartiers de Mexico possèdent une architecture civile d'époque coloniale aussi bien conservée que Coyoacán et San Angel. La promenade de découverte que je vous propose relie le cœur des deux quartiers, les deux places que notre chemin de promenade attache d'un quartier à l'autre sont renommées pour leurs foires d'artisanat qui ont lieu toutes les fins de semaine.
Et démarrons donc par la très agréable place San Jacinto de San Angelo. Par quoi commençons-nous notre visite?
Alors j'aime bien commencer par la visite d'une église. Rentrons donc dans l'ancienne chapelle du couvent dominicain du XVIe siècle. Elle est devenue l'église San Jacinto et juste en face, visitez le Museo del Carmen qui présente des mobiliers, des peintures et divers objets d'art de la période coloniale. Le musée se trouve dans l'ancienne école conventine carmélite San Angel Martir, d'où le nom du quartier.
Où nous trouvons aussi le musée Diego Rivera.
Oui, que Diego Rivera a fait construire entre 1931 et 1932 par le plus grand architecte mexicain de l'époque, dont je n'ai pas retenu le nom, mais c'est une maison magnifique, c'est une maison jumelle où Diego vivait et travaillait avec sa femme Frida Kahlo durant une longue période de leur vie commune.
Et bientôt, nous arrivons à Coyoacán, mais avant...
Alors visitons le magnifique marché aux fleurs, non loin du musée Carrillo Hill. Donc c'était un musée qui a été créé par un médecin qui s'appelait donc le docteur Carrillo. Il a fait ses études de médecine à Paris où il a découvert des artistes avant-gardistes. Et une fois rentré au Mexique, il a soutenu les artistes locaux et avec son épouse, il a réuni une importante collection de tableaux. Et puis après ce musée, entrez dans la Capilla San Antonio Pancasola, construite au XVIIe siècle, donc cette chapelle avant d'atteindre Coyoacán, que vous ne pourriez pas rater, ne serait-ce qu'à cause de sa façade rouge-juif.
Et donc à partir de l'avenida Francisco Sosa, nous arrivons dans ce quartier de Coyoacán.
Alors c'est une des rues la plus attrayante de Mexico, et considérée aussi comme la plus ancienne rue coloniale de l'Amérique latine. En continuant notre promenade, nous longerons de très belles demeures qui sont toutes des témoignages d'une époque aujourd'hui totalement disparue.
Et à Coyoacán, il faut absolument parler de l'étonnante artiste qui était Frida Kahlo, l'épouse de Diego Rivera.
Alors, Frida Kahlo était le peintre, on pourrait dire, le plus original du Mexique. Et je crois même dans le monde, est très surprenante tout ce qu'elle a fait. Son père était un photographe hongrois. Elle a eu une vie très tourmentée. D'abord, la poliomyélite dès son enfance l'a affaiblie sa jambe droite. Puis, à 18 ans, un accident épouvantable de la circulation brise sa colonne vertébrale. Les souffrances qu'elle endure tout au long de sa vie se reflètent dans ses tableaux, qui sont souvent violents et dérangeants. Frida a vécu une bonne partie de sa vie à Coyoacán, dans une maison qui s'appelait la Casa Azul, c'était une maison bleue, et dans cette maison natale, et elle y est morte. Sa maison est devenue, après sa mort, le musée Frida Kahlo.
Et n'oublions pas aussi Léon Trotsky, qui est lié aussi à Coyoacán.
Absolument, qui, après sa fuite de l'URSS, puisqu'avec l'arrivée de Staline, il n'avait plus la possibilité d'y rester. Il a vécu dans la maison jumelle de Diego Rivera et il s'est installé après avec sa femme à Coyoacán. C'était dans une maison qui était extrêmement protégée. Mm-hmm. Il fut quand même assassiné dans sa maison. Oui, oui. et qui est devenu plus tard le musée qui porte son nom. Alors, et puis, citons aussi les maisons des quelques grands conquistadors dont j'ai parlé à l'instant. Donc, ils y ont vécu comme Cortés et Diego de Ordaz. Il y a bien sûr d'autres églises et de chapelles à visiter avant d'atteindre l'autre place, la place Hidalgo, et de laisser ces deux quartiers si particuliers derrière nous dans cette mégapole du XXIe siècle.
Et donc, maintenant, quittons le centre historique et allons à la place Garibaldi.
Et assistons à une sérénade de mariachi. Ah. Que ce soit le jour ou la nuit, ils y sont tout le temps. Alors, ce sont des musiciens qui jouent pour des noces, des bals, et leur nom vient du mot français mariage.
Mariachi. Elisabeth, il faut aussi que tu nous parles de la Vierge de Guadalupe, la sainte patronne des Amériques.
Alors, le 12 décembre 1531, la Vierge Marie serait apparue à l'endroit même où on a construit une basilique. Comme cette apparition rappelle celle survenue en Espagne à Guadalupe, en Extrémadure, d'où la majorité des conquistadors sont installés en Espagne, en Mexique, la Vierge est apparue à Mexico, fut nommée comme celle de l'Espagne. À chaque année, des milliers de pèlerins se rassemblent à la basilique et partout ailleurs devant toutes les églises du pays pour célébrer l'apparition de la sainte patronne du pays. Et tout ça avec une immense ferveur.
Et l'artisanat mexicain est connu aussi et il y a sûrement de nombreux marchés à Mexico.
Oui, alors s'il y a un marché à visiter, c'est celui de la Merced. Avec ses 5514 étals, il est considéré comme le plus vaste marché des Amériques. Il est installé sur une partie de l'ancien marché aztèque. Et à côté, il y a le cloître de la Merced de style mauresque qui a donné son nom à ce marché.
Et on n'a pas encore parlé des jardins flottants.
Ah oui, effectivement, il ne faut pas les oublier parce que non loin de la basilique de Guadalupe, sur une partie de lac Texcoco qui entourait, rappelez-vous, l'ancienne capitale aztèque, se trouve Xochimilco et ses jardins flottants précolombiens qu'il faut parcourir avec une barque, avec un guide de préférence pour ne pas se perdre sur ces canaux ombragés.
Ah, je crois, Elisabeth, que nous allons devoir malheureusement passer. N'avons pas le temps de parler encore d'autres choses.
Oui, surtout qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les environs de Mexico aussi,
les
pyramides.
Mais oui.
Je veux quand même juste dire un mot d'une pyramide qui se trouve par contre dans la ville même, qui s'appelle Cuicuilco.
Cuicuilco.
Cuicuilco, voilà, vieille de 2500 ans. Et ceci serait, et c'est considéré comme le plus ancien monument de la ville de Mexico.
Que nous étions ravis de vous présenter dans notre émission
Capitale sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
Tengo pelitos en el copete y arriba.